appelle à la quatrième. J'en suis d'accord. Je suis le cher Jean-Philippe, je m'endormis cette familiarité parce que pour tout vous dire, nous nous connaissons depuis assez longtemps, nous avons débuté notre vie professionnelle ensemble, c'est-à-dire de la même promotion d'école. J'ai un souvenir ému d'un voyage à travers la moitié de Paris, parce que nous devions déposer dans le tuyau la même année, je ne dirais pas quand, au Conseil d'État. Et l'habitude dans cette maison, à ce moment-là, c'était que les jeunes arrivants devaient déposer leur carte de visite chez tous les membres du corps. Donc, nous étions quatre dans cette promotion. On s'est partagé Paris. J'ai eu grand plaisir d'être dans l'équipe de Jean-Philippe et on a distribué des cartes de visite comme ça à tout Paris. Après ça, on a fait autre chose après. Je ne rencontrerai pas tout ce que vous avez fait comme homme politique, mais je dirais quand même une chose, c'est que vous avez bien défendu la culture hein, en action, en écriture. Une des dernières choses que j'ai vues de vous, c'est la préface que vous avez écrite au très beau livre sur un peintre de la Bourgogne. Jean Lamont. Bon, il y aura beaucoup de choses. On peut parler de la toile d'or. Après, vous allez vous parler de toutes sortes de choses. Une des deux raisons pour lesquelles je suis personnellement particulièrement heureuse de vous accueillir, c'est que l'idée de vous demander de faire une conférence vient du Benjamin de notre conseil d'administration, Didier Bernal, qui cache. Et tout ça, cette liaison, c'est vraiment consubstantiel au moment parce que ça s'est fait à travers le bois. Vous travaillez ensemble, vous avez travaillé ensemble sur le bois, on manque de bois. Et l'autre grand plaisir à vous accueillir, c'est parce qu'au fond, c'est un peu la Bourgogne du vin, le chemin, qui vient rendre visite à la Bourgogne de l'eau. Notre enfant, le granit, oblige, nous n'avons que de l'eau. Mais pour faire une vie à la fois saine et agréable, il faut des deux. Voilà. Et je vous donne la parole.
Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Je suis heureux de vous rencontrer en effet, c'est le bois. C'est un certain nombre de personnalités qui savent qu'avec là, nous n'avons travaillé pas nécessairement uniquement sur le bois de la Nièvre, mais sur un certain nombre de problèmes nationaux, ça n'est pas terminé. Il y a un certain nombre de problèmes concernant la propriété forestière, les programmes d'aménagement par bassin de ressources, le bois énergétique, etc., etc. Et ça m'a procuré le plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, je suis allé mettre donc je ne vais pas commencer par vous expliquer que c'est une enfance, le comble du ridicule et de l'audace. Je vais simplement préciser ce que je vais entendre, moi, par le bon temps, pour ce dont je vais vous parler, de manière à ce que nous tenions dans des limites géographiques à peu près reçues. Mon expérience personnelle, je trouve qu'il n'est pas très facile de savoir où commence le bon temps et où il finit. Quand j'étais parlementaire, j'avais dans ma circonscription le canton d'Hiernais, lequel comporte une commune qui est celle de Metzel, qui avait la particularité d'être enclavée dans la circonscription de François Mitterrand. Et utile de vous dire que ce n'est pas à Metzel qu'étant député de droite, je faisais des scores plus impressionnants. Mais les gens n'étaient pas, ils me recevaient de temps en temps. C'est l'occasion pour moi de citer votre ancien président Marcel Vidreux, que j'ai très connu et qui a beaucoup fait pour cette commune. Je me souviens que quand on arrive venant de l'Est, venant d'Ardèche, on arrive à part de l'équipe, et on dit aux gens, ah ben là on est en mort, les gens disent, oh, on va l'entendre encore, on pense bien que les lois. toujours sur les marques. C'est-à-dire qu'une marque, c'est à quel point les limites sont difficiles à imaginer. Donc, ce sont pour simplifier, comme je n'entrerai pas dans les détails, je vous dirai à connaître mètre par mètre les frontières du corps, que je me tiens au corps tel qu'il est défini dans Audio. C'est-à-dire le sol granitique et montagneux. Je crois qu'il faut en faire ses bons. Les géographes, les professeurs de l'Afrique aussi, je pense, se rallieront à cette définition. Il n'y a pas d'ailleurs, à l'époque que nous allons étudier, 14e, 14e siècle, il n'y a aucune unité administrative ou politique du Morvan. Le Morvan, bien au contraire, est un lieu d'affrontement et une partie. L'explication du titre un peu intrigant que j'avais voulu donner à ce qui est exposé. Le Morvan marche, parce qu'il est un clin d'œil à l'opinion publique, genre publique, qui a expliqué pour bien au Moyen-Âge ce qui se passait en marche, c'est-à-dire dans les zones frontières les plus importantes. C'est là qu'il y avait les grands tournois. C'est là que s'installaient les grands monastères, les Vaux, les Montmartre, Bourgogne et Champagne. Le temple a été créé en marche. En réalité, les marches sont des endroits souvent, parce qu'ils étaient à la limite de souveraineté ou de souveraineté disputée, et mais les lieux se faisaient vivre. Alors pour le Morvan, dans quelle période sommes-nous? Je vais clarifier très simplement. Nous sommes à l'époque de la naissance, de l'essor de la maison Bourgogne, des Valois. Dans les manuels français, on ajoute de la chute de la maison Bourgogne. J'ai toujours eu beaucoup de mal à croire ce point de vue, parce que une famille ducale qui commence par à peu près actuellement la sous-préfecture de ce bureau de soie, la sous-préfecture de Beaune et la ville de Dijon, et qui finit avec Charles Quint, le phénomène de décadence et de chute ne paraît pas totalement historique. Mais vous savez que depuis Michelin, c'est un peu à dire naissance, essor, chute de la maison pour eux. Il y a eu des conséquences, encore que, voilà l'utilité de la qualité de l'Europe, M. Bourbon le disait tout à l'heure, que Seigneur, son âme, a rendu hommage à l'archiduc d'Autriche Maximilien, bien après la récupération, entre guillemets, de ce quoi c'est dans le Duvernet, celui-là, le pouvoir du Duvernet, par le roi de France. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là dans le monde? Il se passe la fin de la guerre de Cent Ans, 1435, la chute de Constantinople, 1453, et si vous voulez, les faits anonymes, l'invention de la caravelle et de l'imprimerie, c'est-à-dire de faits vraiment annonciateurs du monde moderne. Donc on va regarder ce qui se passe entre 1360-64, invasion anglaise, d'ailleurs, dans le Morvan, laissant des traces tout à l'heure, jusqu'à 1482, la fin du XIVe siècle, la mort de Marie Bourgogne. Et, si vous le voulez bien, nous allons regarder successivement l'influence politique de l'État bourguignon. Qu'est-ce que le Morvan, dans la carte de l'État bourguignon, en constitution progressive? Ensuite, nous examinerons ce qui arrive au Morvan, comment le Morvan subit les choix géopolitiques qui ont été faits sur son est, plus que sur son ouest d'ailleurs. Et enfin, on essaiera de porter un jugement sur les acquis de cette période. Alors, géopolitique de l'État bourguignon, elle est ambiguë dans cette région, nous sommes à l'ouest. L'État bourguignon démarre sous la forme d'un apanage qui est le duché de Bourgogne,
Ça c'est pas très grave,
parce qu'il n'est pas le seul, mais surtout ce qui est dramatique, c'est que pour ça la guerre contre l'Angleterre, pour ça la reprise de la guerre contre l'Angleterre. Philippe le Hardi avait assuré une sorte de paix, et simultanément se produisent deux choses en France, ce truc disant, joué aux riches, avec qui est le Victoria, et en Angleterre, la révolution qui installe Henri IV à la place de Richard II, le verger des Plantagenets, revoit la pièce de Shakespeare, Richard II, sans doute le chef-d'œuvre de Shakespeare, ou le chef-d'œuvre de Shakespeare, et qui explique très bien tout ça. Et notamment, qui montre après l'assassinat de Richard II, le renvoi de la reine française en France, et Henri IV, devenant roi d'Angleterre, à la tête des barons qui pour vivre la veulent aller piller la France. Comme en France, maintenant, il n'y a pas eu de gouvernement qui lui aussi trouve que la guerre, ça serait une bonne idée, les choses vont mal. La rivalité après la mort de Philippe le Hardi en 1404 est immense. Jean Sempere, comte de Nevers, est illustré à la croisade de Nicopolis contre les Turcs. Est finalement contraint de s'impliquer dans la politique française et il est évident qu'il s'implique dans la politique française peut-être en allant un peu loin dans les méthodes. On le soupçonne d'avoir pas une complètement étrangère à l'assassinat de Philippe d'Orléans. Il s'allie à la fraction la plus trouble de la population parisienne. N'oubliez pas que les Chinois, les comtes de Nevers, même si les Turcs, à la croisade, l'appellent le fils du roi de Flandre. Et par exemple, ils entrent, ce qui est bien, ce qui est un bon sur le plan politique, à un moment donné, il va aller Paris à sa cause, et il est avec le maréchal de Chatu, quelqu'un d'ici, et il entre dans Paris, précédé d'un héros qui crie, Paul Jean. Le duc de Bourgogne qui a abolé nos Allemands. On rêverait d'un slogan politique de ce genre, et je suis persuadé aujourd'hui encore, un hiver neige qu'on ferait dans Paris en abolissant les impôts reste un destin national. Alors, les choses changent à ce moment-là. Elles changent pourquoi? Parce que la Bourgogne, vous voyez, elle s'implique encore dans les luttes françaises, mais elle est attirée par le Nord, elle est attirée par la Flandre. Philippe le Bon, à l'assassinat de son père, par le dauphin, qui est marié à la sœur du futur Charles VII, il y a quelque chose d'assez émouvant, même l'histoire du temps, il y a 20 ans, se fait de noir, que ne sera plus jamais son costume noir, sa robe noire, sa vie, et il n'a pas ça, vous savez, la dynastie espagnole, plus tard. Charles Quint portait le deuil de Jean Sempere. Et il va avoir sa femme, il lui dit Michel, grand Michel, votre frère vient de tuer mon père. Évidemment, c'était une situation assez tendue. Et à partir de ce moment-là, on voit que Philippe le Bon et la Bourgogne sont de plus en plus attirés vers le Nord. Il y a quelqu'un qui ne s'y trompe pas, c'est intéressant, c'est un grand géographe arabe, Yves Khaldoun, qui est contemporain de Philippe le Hardi, qui écrit son discours sur l'histoire universelle à la même époque. Il parle de l'état des Montignons et il dit qu'il est entre la France et le pays des Allemands. Et il se regarde vers le Nord. C'est formidable comme analyse géopolitique. D'abord parce qu'il est entre la France et le pays des Allemands, c'est-à-dire déjà on sent qu'il est. C'est plus tout à fait la France, c'est une construction politique nouvelle. Et puis il regarde vers le Nord. Et c'est l'appel de l'Europe médiane qui va jouer un rôle tellement important dans la suite des temps. Trois citations pour caractériser cette évolution. chanson d'heure trinque avec le bourreau de Paris, capuche, et avec le chef des bouchers, capoche. On s'est fait la personne, on s'est dit rien du tout, c'est dit, oh, ils sont capables, c'est que je te sens fait payer. Il y a un tabou, c'est un tabou du sang. C'est-à-dire que dans la société médiévale, les gens qui versent le sang sont impurs. Ceux qui versent le sang des animaux, enfin, ils vont se le geste de l'ensembleur trinquant public avec le bourreau et le chef du boucher de Paris, c'est un geste d'un modernisme incroyable. On a du mal à imaginer en 2005 ce qu'il faudrait qu'un premier ministre fasse pour signifier autant qu'il ne se compte à rendre à personne et que sa seule volonté lui servirait. Philippe le Bon, lui, a rassemblé les seigneurs immenses, fait le rassemblement de ce qui est le Pays-Bas, la Belgique, le nord de la France. Et Jésus, vers la fin de sa vie, il lâche un peu méprisant à des ambassadeurs de Louis XI que l'on sache que si j'eusse voulu, je fusse roi. C'est-à-dire, je viens écouter, la monarchie française, j'en suis, c'est le roi de France, le titre de France, j'appartiens à la maison de Valois, la souveraineté, au moins dans les terres de mon empire, est entière. Et enfin, dernière citation, elle montre bien comment on a basculé. Charles le Téméraire, recevant un jour des ambassadeurs de la France qui se conduisent de manière grossière, se fâche, il leur rétorque, nous autres Portugais, nous n'aimons pas qu'on nous manque. Fils d'Isabelle de Portugal, la grande dynastie d'Italie, fils de la dynastie des rois de Portugal, fils de Philippe de Lancastre, la suite d'Édouard III, le vainqueur de Crécy, c'est-à-dire qu'il est. Et quand il est héritier de maisons souveraines portugaises, anglaises, la puissance d'un roi, et ce qui s'ambitionne, c'est la dignité impériale, vous savez. Alors il a trouvé Château Chinon sur sa route. C'est extraordinaire. On peut dire comme ça dans le lancement. Alors, quelle est la politique de cet État d'opinion chez nous, sur la frontière de l'Ouest? D'abord, vous avez vu qu'au début, ce n'est pas une frontière. Hein. Au début, par héritage, Philippe le Hardi et le souverain légitime du Bernay, tout ça à l'intérieur du royaume de France, on remonte, comme on dit dans les entreprises modernes, on fait une reportique au roi de France. Son fils est comte de Nevers, et en réalité, il y a une volonté d'État bourguignon, je dirais d'abord de simplification du comté de Nevers. On voit très bien comment ça se passe, cette simplification. Après Azincourt, Jean sans peur, donc c'est 1415, à Azincourt contre Henri V d'Angleterre, Jean sans peur a. Écarté du combat, le futur Philippe le Bon, héritier commun. Mais les deux frères de Monsempeur ont été tués à Valcourt et ont été tués du côté français. Et c'est c'est Philippe de Nevers, enfin le comte de Nevers, et c'est le duc de Brabant, enfin le duc de Brabant. Alors ça aura des conséquences politiques aussi dans Brabant. Ici, ça aura des conséquences. C'est la début des noyements après la mort du comte de Nevers. Qu'est-ce que fait Philippe le Bon? Il écoute la veuve du comte de Nevers, Paul d'Artois, qui est bon. Donc, quand je dis volonté de synthétisation, vous voyez qu'on est prêt à s'engager personnellement. Pas seulement dans le regard préféré, à quoi on épouse la duchesse, la comtesse. Donc, ça veut dire, ça ne nous échappe pas. Donc, pendant très longtemps, les choses fonctionnent assez bien. Néanmoins, le ministère d'Aide va s'éloigner peu à peu. Les branches canaires, le Bourbon, là, on ne va pas faire là. L'histoire des Nivernais, qui est même un sujet complet. Mais la frontière militaire va s'établir, la vraie frontière militaire va s'établir sur la Loire. Vous savez que c'est fréquent en politique. Prenons un sujet très brûlant actuellement. Prenons le conflit israélo-palestinien. Il est clair que pour Israël, la frontière militaire, c'est un Jourdain, même si à l'intérieur, il y a des habitants palestiniens. Je dirais que, ça me fait un peu froid dans le dos, la comparaison que je prends, mais parce que malheureusement, ça a une mauvaise conséquence pour le campement. Il y a beaucoup de sujets d'insécurité, de guerre, tout ça. La frontière militaire, la province, c'est sur la voie. Et puis pour le reste, là, on fait comme on peut. Et sur la voie, on est fait avec le paquet. Et là, évidemment, il y a un personnage absolument passionnant qui est mérité grâce à. Et ça, la personne incroyable, parce que voilà quelqu'un qui était à chèvre contre Thierrya, devant son peuple. Et puis, il a eu un côté très fort. Les Français, entre guillemets, vous savez pas pourquoi, c'est bien les Français, c'est-à-dire les adversaires de la Bourgogne. S'empare de la Charité-sur-Loire et 1422 s'empare de la Charité-sur-Loire avec un hôtel Dany du Châtel. Il faut savoir que Dany du Châtel, c'est l'assassin de Jean Sempeur. C'est lui. Jean Sempeur est mort dans des circonstances qui sont infamantes pour le dauphin, puisque vous savez que l'hommage que devait rendre le vassal à son seigneur consistait à joindre les mains, on s'agenouillant devant lui, et le Seigneur tenait les deux mains enferrées. Jean Sempeur s'est agenouillé devant Charles le dauphin, a tendu les mains, le dauphin l'a emprisonné les mains, il l'a tenu. Et pendant ce temps-là, Daniel du Chapelle, il a fracassé le crâne d'un peu de hache. Or, voilà l'assassin qui s'est emparé de la charité sur moi. Alors, le duc est évidemment fou de rage. Et à Noël 1423, il y a une scène grandiose, qui est le commando de Noël, je ne dis pas l'existence de Noël, mais il n'existe pas le sapin de Noël dans le moment à l'époque, et il y a une fête de Noël qui n'était pas très importante que Pâques, mais qui était une fête importante. Et pendant la nuit de Noël, pendant qu'on chantait Tourière-Mathieu-Zex de Blix, à ce moment-là, Périnée Pessa s'empare de la charité sur moi. Il s'est très bien accepté. Il y a une scène très drôle qui là aussi figure très peu dans les manuels scolaires. C'est qu'en 1429, l'armée royale se présente devant la Charité-sur-Loire. La Charité-sur-Loire est présidée et dirigée, cette armée, par l'élite des commandants de l'armée du roi redevenu légitime de l'ex-roi de Bourges, mais surtout elle a à la tête la poussette, Jeanne d'Arc. Sur son cheval blanc, avec son ordre. Alors, on s'attend évidemment à une victoire éclatante. Alors, c'est une déroute extraordinaire. L'armée royale s'enfuit en abandonnant tous ses canons. Jeanne d'Arc, c'est glorieux. Et Périnée Pessa s'installe alors définitivement comme capitaine général du Nivernais et du Durzet. On le marie. Tout le monde s'est entendu bien avec lui, on le ménage, il ne faut pas s'en passer, y compris Charles VII qui prétend avoir une grande sélection pour lui, alors que Périnée Pessa, pendant longtemps, était capitaine général de la Charité-sur-Loire, avec comme titre le capitaine pour Henri VI, roi de France, donc vous voyez que Périnée Pessa, un personnage de cette tête. Mais ça montre à quel point il y a là une frontière. Peu à peu, le Nivernais va s'éloigner de l'ensemble bourguignon, mais alors où se situe la frontière? Vous savez, les géographes qui sont ici le savent, il y a une division classique vision qui va de au fond du progrès à du progrès à bien perdu en laissant perdu la Bourgogne et qui passe par les hauts. Les commodes, parce qu'il y a des partages des eaux, il y a des repères pour les géographes. À l'époque, elle ne correspond pas vraiment à ça pour une raison simple. J'étais félicité par un jurisconsulte très célèbre qui s'appelait Picotti. Picotti écrit, c'est tout le principe de la société de cette époque qui est la femme dominante. Il y a pas de terre sans seigneur. En fait, tout est là. Mais il est difficile. Et chacun est seigneur dans tout le ressort. Sur terre, les cols, vent, les prairies, tout est à lui. Forêt venue, oiseaux dans l'air, bêtes, buissons, cloches, qui roulent, ondes, qui coulent. Il y a une terre sans seigneur. Ça veut dire qu'en réalité, le pouvoir est exercé, le pouvoir réel, est exercé par le seigneur, disposant de droits fiscaux, disposant de droits de propriété, mais aussi de droits de fiscalité, disposant de droits de justice, insérés dans une chaîne qu'on appelle la féodalité, qui est une chaîne d'hommage et de service, service rendu en échange de dommages, et que, je l'ai dit tout à l'heure, comme les femmes héritent, vous savez que cette idée que les femmes n'héritent pas, c'est une invention totale qui a été faite au moment d'un mort, d'ailleurs pas du dernier des rois maudits, la mort de la grande dernière, enfin, pour éviter de tomber dans un système où l'héritier principal, si c'était les femmes qui se pouvaient transmettre, c'était le roi d'Angleterre. C'était pas possible. Et puis, si c'était pas le roi d'Angleterre, on tombait bien vite dans ce cas, c'était le roi de Navarre. Charles, même si le sujet appelle Manon. Donc on a inventé un système où les femmes ne peuvent pas, ne peuvent ni régner ni hériter du trône. On a prétendu que c'était Clovis qui avait ramené ça, etc. Tout ça ne tient pas de prouver comme étant faux. Et n'a d'ailleurs été appliqué qu'à la monarchie française. Elle n'a été appliqué aucune autre monarchie du monde. Et en tout cas, elle n'était pas appliqué au lien des seigneurs des époux dans la France. Et c'est ainsi que par les mariages, vous aviez ces seigneuries qui passaient d'une mouvance dans l'autre. Quand vous regardez l'histoire d'une paroisse, on vous dit elle est mouvante de Bourgogne, et puis à la croisade dernière, voilà, le seigneur est mort. Sa veuve a épousé en second temps un autre, et la seigneurie est devenue mouvante du divers. Ce qui fait qu'il est tout. Ça va au chiffre de Mars, donc on ne peut plus non plus. Alors il faut faire ça, mais ce n'est pas le but de ce que je veux. Pour ça, vous montrez qu'on est dans un domaine mouvant. Mais simplement, constater, vous le savez, mais c'est toujours intéressant quand même à rappeler. Vous avez comme seigneur le château Chinon, vous avez la famille de Brienne. Alors, la famille de Brienne, ils n'ont pas été que seigneur le château Chinon, vous savez qu'ils ont été ducs d'Athènes, qu'ils ont été rois de Sicile, qu'ils ont été rois de Jérusalem, et qu'ils ont été enfants de Constantinople. Ils étaient néanmoins également seigneur le château Chinon, et je souhaite qu'il attache autant d'importance et d'autant de Constantinople à ce seigneur du château Chinon. Et ce qui est bien, cette carte politique au système d'organisation de la société médiévale, il y a une terre sans seigneur, et la terre suit le destin du seigneur ou son chemin. Alors, on en est là, et maintenant on va se dire, cependant, qu'est-ce qui va se passer, compte tenu de ce que je viens de dire. Cette grande puissance qui
Parcouru
spectacle des cataractes de Dachauan à Aubert, dans les capitales, ils avaient parcouru l'Europe et l'Afrique. Au bout de 20 ans, 25 ans, on leur donnait une terre, on les installait comme vétérans. Les républiques ont réinventé le service militaire, les gens, peu de temps, la plupart du temps, semble-t-il, de se déformer. Au Moyen-Âge, on recrutait des gens pour être soldats, mais quand la guerre, on les distanciait sans crainte. Or, ces gens, ils ne savaient faire qu'une chose, c'est tuer. Et à l'époque, il ne fallait pas un armement gigantesque, il fallait garder son épée. Et ils se montaient des bandes de brigands avec les soldats licenciés qui faisaient que la paix était plus dangereuse pour les populations rurales que la guerre. Parce qu'au moins pendant la guerre, les armées se battaient entre soldats, et puis il y avait des chefs qui maintenaient un semblant d'ordre. Quand c'était la paix, les mêmes qui étaient soldats un mois avant réapparaissaient comme brigands. Et puis tout le monde le disait, c'est parce qu'en plus le brigandage est beaucoup plus drôle que la guerre. On risque beaucoup moins, on s'attaque à des gens pacifiques qui ne savent pas se battre. Et Talbot, le grand Talbot, le général anglais, disait si Dieu lui-même était soldat, il se ferait brigand. C'est absolument constaté. Alors, ici, malheureusement, vous avez subi tout ça. Vous avez subi des bandits. Depuis le temps de Philippe le Hardi, c'est la fin des guerres contre l'Angleterre, avec quelqu'un qu'il faut citer, qui est Arnaud de Servolle, qui est l'architecte, qui était en effet un architecte dans le Périgord, qu'on a subi pour faire de Franquille par marier à l'héritière de Tigre. Un autre nom absolument à citer, c'est Fortespice. Fortespice qui s'est emparé d'un ballon. Et c'était conduit apparemment assez mal, parce que Baudio, mais Baudio il est écrit en 1854, hein, il ne peut pas tout dire, il dit qu'il se fit remarquer par son attitude insolente envers les dames d'Avalon. Quand on connaît le personnage de Fortespice, l'attitude insolente peut paraître un euphémisme. Et puis c'est un choix épouvantable, parce que même les noms sont évocateurs, on voit très bien que tout ça, c'était des gens effrayants, le Joliot le Nègre, le Bâtard de Bourbon, etc., toute une série de gens épouvantables, ce sont des monstres. Et ça entraîne un déclin, et notamment un déclin démographique. Vous savez que c'est un art que les géographes connaissent, les historiens, il y a des cerches de feu. Hein. Il y a très périodiquement, on voit des troubles incroyables. Alors il y a la peste, bien sûr, dans les cités qui s'aident et des familles, mais il y a aussi le passage des écorcheurs, et des enfants qui ont disparu, etc., et qui font des troubles. Donc pas d'ascension démographique, ce qui est évidemment très gênant. Ça donne un tableau assez sombre, parce que vous voyez bien que Victor Morillon, lui, se préoccupe de ne pas avoir d'enduit du côté de l'Ouest et d'avoir une frontière militaire sud. Pour le reste, on y reprend un petit nombre, de l'Armagnac s'en embarque, dans Morillon s'en embarque, il y a une vraie politique. Géopolitique de l'Ouest, parce qu'il faut reconnaître dans ce moment-là, il fait des choses très intéressantes de son point de vue. Il avance ce qui est maintenant la Hollande, disons, les Pays-Bas d'avant 1830, la Hollande et les Luxembourg. Et notamment, on voit que le mouvement progresse quand sur le plan social. Par exemple, une institution qui est la main morte. La main morte, c'est l'état des gens de condition de service qui ne peuvent posséder de fief et qui ne peuvent pas transmettre leurs biens sauf à l'héritier. Et la main morte, c'est revient au Seigneur. Les biens reviennent au Seigneur. C'est vraiment changer de genre. Alors, même des gens importants le sont, par exemple, il y a quelqu'un qu'il faut citer, parce qu'il est ici, c'est Jean Germain, le chancelier de la Toison d'Or, évêque de Nevers, évêque de Chalon, sous Saône. Il est maître de maman, et les biens de Jean Germain qui sont revenus au duc. La maman, dans d'autres régions de Bourgogne, elle n'est plus qu'à participer. Les juristes du 15e siècle en parlent comme une curiosité juridique. Malheureusement, elle n'est pas complètement ici en Corse. Autre exemple un peu de la fragilité et de l'économie. J'ai été frappé en regardant des textes du nombre d'impositions en nature qui sont prélevées dans le port. À la même époque, à Beaune, en Europe, il faut maintenant, bon, il y avait leur femme, c'est vrai, la crise d'un vol en risque des 5 degrés, 6 sous, 3 degrés, 10, etc. Mais là, je relève, c'est un bichon sec, une poule de coutume, 5 œufs, un morceau de beurre. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il y a toute une économie qui n'est pas encore monétaire, les gens n'ont pas les moyens d'accéder à l'économie monétaire, et on vit en ressources naturelles. Donc, si vous voulez, je crois que là, il y a quelque chose d'assez trop. Néanmoins, il y a des initiatives. Ne pensons pas que c'est une période dominée par les aidants, les écorcheurs, et tout ça. Il y a des initiatives.
Thank you. Le témoignage que je vais vous lire, c'est le témoignage d'un adversaire.
gageur, la limite que l'on passe des terres de suzeraineté bourguignonne en terres de France. À peine avez-vous posé le pied dans le royaume, que l'aspect de la contrée devient sordide et rabote. Champs agus, ronces et buissons, de rares cultivateurs arabes exsangues couverts de haillons. Dans les villes et les villages, des ruches nombreuses, de nombreuses demeures d'habitants, et dans celles qui sont occupées à un millier vulgaire insuffisant, tableau de la misère, de la dépression et de la servitude. Mais nous voici sous le gouvernement bourguignon. Tout fleurit, resplendit, s'élève. Nombreux sont les villes et les lieux fortifiés. La population abonde. Les maisons sont variées de brillants aspects, remplies de beaux meubles. Les champs sont cultivés. Les clôtures en bon état. Les gens bien vêtus ont des figures brillantes. On a toujours considéré que c'était le plus bel éloge qu'on puisse faire d'un pouvoir politique que de dire que, sous son autorité, les gens bien vêtus ont des figures brillantes. Ça caractérise deux choses. Ça caractérise les forces matérielles et ça caractérise le goût de vivre. Malheureusement, je dois à la vérité de dire que ce tableau est vrai pour le nord de la France. Et d'ailleurs, Thomas Bazin, dans le contexte, on comprend qu'il évoque le départ de Louis XI, qui s'était réfugié à Bourg de Bourgogne, qui apprenant avec joie la mort de son père, parce que le chroniqueur de l'île de Bourgogne, qui était terrible, décrit quand on apprend à Louis XI la mort de Charles VII, le chroniqueur qui était l'indique, sa joie dans cet homme à voir. Et donc, il part pour prendre le trône de France, et en effet, tout d'un coup, il quitte les états de Bourgogne, il a Gérard, dans ce temps, et il est fou de rage de constater le retard de l'homme. Malheureusement, je dirais que le Bourgogne, à cause, je crois d'avoir essayé de le montrer, à cause de cette position en marche, cette position un peu isolé, n'a pas bénéficié autant qu'on aurait pu le penser cette inclusion dans une structure bourguignonne qui ne s'est pas montré suffisamment présent. Alors, est-ce qu'il y a des occasions manquées? Il y en a. Il faut faire toujours très attention quand on refait l'histoire. Par exemple, je ne dirais pas que on a eu l'occasion, sur le duc de Bourgogne, de développer le tourisme en Bourgogne, sur une activité tout à fait loin, et que le tourisme au XXe siècle était peu répandu, n'était pas un problème de base. Et ces gens restaient exprimés, par exemple, il y a eu des tentatives, vous savez que, curieusement, à l'époque, le développement de l'économie au XVe siècle provoquait une soif d'espèces monétaires. On avait besoin d'or, on avait besoin d'argent. Les Habsbourg avaient de l'argent en Styrie, en Bohème. Quand on envoyait des caravelles sur la mer, c'était pour la plus grande part de Dieu, mais accessoirement, c'est des antennes de des côtes d'Afrique, les Portugais, ils avaient d'or. Et ceux qui sont partis pour la Guinée, outre le souci légitime de baptiser les Indiens, il y avait celui de ramener des espèces monétaires. Et le duc de Bourgogne s'était préoccupé de cette affaire. Et il avait une politique minière, qui est une affaire assez peu connue. Et il y aurait là une étude complémentaire pour laquelle il était encore à faire. Il a envoyé notamment à Avalon pour explorer à partir d'Avalon le sud de la région, à terre de Durandère, qui était un mineur. Estimait qu'on pouvait trouver, vous savez, c'est un ensemble d'argent et de plomb dans la région. Cette politique minière des ducs de Bourgogne était quelque chose de sérieux. Le Juan de la Huerta, le troisième sculpteur de Chamba, a laissé tomber la sculpture pour se faire entrepreneur de mine et a terminé sa vie à chercher du cuivre, de l'argent, en trouver, enfin, ils s'en étaient occupés travail. Et donc on voit bien, si vous voulez, que vers la conclusion, en toute l'histoire, naturellement, ce qu'on peut dire de cette époque, c'est la chose suivante. Il s'est trouvé que la naissance d'un État puissant immédiatement à votre est, qui exerçait son pouvoir sur une partie du moment, qui maintenait une frontière géopolitique et militaire sur la voie, mais qui ne se préoccupait pas finalement de son ouest parce que toutes ses énergies étaient absorbées par le nord et l'est, et ensuite l'aventure impériale, etc. Il est certain que c'est une chose qui n'a pas favorisé un développement original de l'État. C'est dommage parce que, si on reprend la classification de Strauss, il explique que les civilisations se développent à partir de milieux, des précipitations chaudes, des précipitations froides. Il y a des milieux, une société chaude, une société froide. Société chaude, bon, société chaude, il y avait en très certainement cette société bourguignonne au centre du XIXe siècle, comme celle de l'Italie du Nord. Et on aurait pu sans doute en tirer un peu plus. Alors, quel souvenir, ça c'est à vous, c'est plutôt à vous de répondre, ça fait effectivement longtemps que vous tentez de répondre, en restant à l'époque, quel souvenir le Nivernais, la Bourgogne, et le Morvan en particulier, on peut retenir de cette époque? D'abord, rappelons toutes les réserves que tu fais sur les frontières. Enfin, par exemple, Guernet, qui est en Côte d'Or, était dans le Duvernet. Il appartenait au comte de Nevers, il a très beau château du comte de Nevers à Guernet, qui est Guernet, qui est un château plus à l'est que château Chinon. Hein, au moment où château Chinon, il y avait le rite de Bourgogne, à Guernet, il y avait le comte de Nevers. Bon, ça veut bien donc dire que, attention sur ces choses. Mais, je dirais que, il y a quelque chose qui est quand même assez intéressant. Quand Louis XI a décidé, en apprenant la mort de Jean le Téméraire, qu'il voulait mettre la main sur l'État, il y avait une huitième, parfaitement légitime, Marie, qui en plus était sa nièce et sa fille. On est à une époque où Louis XI lui-même, à cette tête très religieux, où le parrain avait des obligations fortes vis-à-vis du filleul. Le parrain devait protéger son filleul et sa filleule. Mais dans ces faits, c'est comme ça, il écrivait, on s'explique immédiatement à tous les maires et bonnes villes de Bourgogne, au nom d'un château chinois, en disant je viens avec mon armée pour protéger l'héritage de ma nièce et filleule, que Dieu garde. Et bien, Bourgogne m'envoie de Pélican immédiatement une lettre en disant que elle invite ses belles-mères de bonne ville à garder la foi de Bourgogne quand bien même ils seraient contraints de partir autrement. Vous savez, avec une connotation très moderne. Saulieu se révolte contre Louis XI. Saulieu résiste aux troupes de Louis XI, proclame Madame Marie, duchesse d'Autriche et de Bourgogne, et c'est par une répression militaire que les Sévérociens sont ramenés dans le devoir. Alors, faut-il voir là des fidélités, on en a parlé tout à l'heure, en attachant cette idée à l'expert son seigneur. Faut-il y voir aussi, et c'est là-dessus que je terminerai, un certain exposés et il faut s'appuyer sur une puissance qui est capable de rétablir une certaine sécurité. C'est tout le problème de l'insécurité dans les sociétés modernes. Or, après tout, les Anglais sont partis, les prêtres ont été intégrés dans le dispositif de sécurité, les écorcheurs ont été massacrés en Basse-Alsace dans les Suisses, et j'en relève la tête, Alors, à partir du moment où la Bourgogne, pour son secteur, rentre dans le royaume de France, on n'est plus fonctionnaliste. Donc on n'a plus le même type de préoccupation. J'en veux pour preuve que le fait que c'est la Bourgogne elle-même qui devient la frontière. Parce que la Vendée, d'autres des assauts, tout d'un coup est une frontière. Et que la Bourgogne va se trouver obligée d'affronter exactement les problèmes que vous aviez à l'ouest, elle va déjà affronter. Mais, instruit par l'expérience, l'expérience, elle sert quand même parfois quelque chose en histoire, elle privilégie des solutions négociation à des solutions de force et elle établit entre ce qu'on appelle les deux Bourgognes, la comté de Bourgogne, son frontière calculée, la duché de Bourgogne, un traité de neutralité. D'un cas très particulier, on croit que quand on fait, vous savez, des eurozones, on croit inventer quelque chose, on ne compte rien du tout. Le traité de neutralité des deux Bourgognes, signé sous François Ier, entre les représentants des États des deux parties de l'ancien royaume de Bourgogne, comporte la suppression des droits de douane, le libre transit, le transit du Cher, etc., de manière à maintenir l'identité. Et donc, on a en percevant à la fin de la période tout à fait curieux, vous abordez une politique, période tout à fait nouvelle, vous n'êtes plus frontière, et c'est les voisins de l'Est qui ont d'abord une période elle aussi tout à fait nouvelle pour laquelle il faut inventer des solutions originales, puisque c'est eux, à leur tour, qui sont devenus provinces françaises.
Il n'y a pas de hasard.
la ligne des gens s'appelle Etikas. Etikas, c'est Johan Etienne, c'est le petit Jean, qui est un nom typiquement néerlandais. Et ces lieux dits sont tout à fait une trace. Le plus ancien que je connaisse en Bourgogne, le lieu dit, mais qui va dans notre sens, l'histoire extraordinaire, est une petite commune de l'Auxois qui s'appelle Barbane. Barbane est au pied d'Amézia, et on sait que les Romains, après avoir détruit l'armée de secours des Versailles, n'ont pas du tout rasé Amézia qui s'est développé, qui est devenu une bourgade, qui était un site religieux, mais en bon militaire, ils ont mis un poste militaire pour survivre. Ils n'ont survécu pas avec des gens recrutés localement, donc ils ont pris un groupe de barbares qui ont installé au pied de l'Amézia. Ils ont pris un groupe de la tribu des Barcomans, qui était une tribu de manière, qu'ils ont installé là, et le nom par les traductions latines est attesté de très longtemps sur cette présence. Donc les emplois, peut-être qu'il y avait la partie d'emploi qui se trouvait là. Ils ont résidé, ce qui va dans votre sens, c'est qu'il n'y avait pas que des règles d'anglais, il y avait une résidence. Par exemple, à Flavigny-sur-Ancre, certains d'entre vous connaissent. Je vous engage à aller le voir, c'est une petite ville merveilleuse derrière Amézia, derrière Amézia-Saint. À Flavigny-sur-Ozra, le roi Édouard III et son fils le prince noir ont hiberné, ils ont passé tout un hiver avec l'armée anglaise à Flavigny-sur-Ozra, et il y a une maison. Il y avait la maison à la rose, c'est une rose qui est sculptée, où on prétend qu'ils sont descendus. Là, je ne dis pas que c'est. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que le prince noir et les trois francs ont vécu pendant 4 mois, puisqu'à l'époque, vous savez qu'il est armé, ne pouvait rien faire de même, c'est quelque chose à la manger. Et donc, on hivernait, on se réfugiait. Donc, les emplois, il faut rechercher quand apparaît ce type. Et s'il apparaît, s'il était au 15e ou 16e siècle, au 17e, ça va être des emplois, c'est clair qu'en effet, l'origine est celle-là. Pour les noms de famille, un mot seulement pour les noms de famille, pour une idée qui est très amusante, vous savez que c'est à cette époque-là que se créent les noms de famille. À l'occasion, justement, de ce qu'on appelle une cherche de feu, c'est-à-dire des recensements, qui n'étaient pas faits du tout pour faire plaisir aux gens fixés, pour prêter des impôts, de capitation, par terre, il fallait connaître des gens. Les gens n'avaient pas de nom de famille. Alors, les recruteurs, ils arrivaient dans un village et il fallait qu'ils fassent leur liste. Alors, ils étaient, comment tu t'appelles ? Martin. Il y avait un côté Martin. Alors, ils regardaient et il y avait, forcément, le Martin du Val, le Martin du Pré, le Martin du Bois, le Martin du Pont. Et il y a un premier sens. Il y a deuxième sorte, source, c'est le métier, l'hôtelier charpentier, etc. Qui est très intéressant, par exemple, Monticabone, il y avait énormément de gens du textile, il y avait énormément de tisserands, il y a beaucoup plus de tisserands que de tisserands à Abone, dans les autres familles. Il y a trois fois plus de tisserands qu'il y a de tisserands, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et puis alors, il y avait les surnoms. Et les surnoms faisaient souvent appel à une origine. L'allemand, l'anglais, le normand, le breton, alors, il n'y en a pas ici. Tous les Le Normands, vous savez, sont bretons. Tous les Le Bretons sont normands. Donc, si on les appelait comme ça, c'est parce que dans le village normand, il y en a bien qui s'appelle Bretagne, Le Breton. Donc, les Le Bretons sont tous normands et les Le Normands sont tous bretons. C'est passionnant parce que vous avez raison de souligner cet aspect des choses. Je trouve que ce qui est très intéressant dans l'histoire, quand on peut le faire, c'est naturellement de voir à grands traits comment les contextes. Et aussi de rechercher la vie des gens. C'est souvent très émouvant, parce qu'elle n'a jamais été très facile, et le enfant n'a jamais été appris très facile, à supposer qu'il le soit de plus. Il n'a jamais été appris très facile, et qu'il avait besoin de grandes comédies. parce que grâce au bulletin de l'Académie des enfants, et il paraît que le Vauban a écrit des choses sur. J'avoue, pour dire général, mais je l'ai fait sur le Vauban aussi, beaucoup sur le Vauban et sur les attitudes des gens du Vauban et leurs difficultés à se développer.
Je voulais vous dire de l'utilité d'une académie comme la vôtre.
Parce que moi, pensez bien que je n'ai pas été moi-même faire la cherche de feu, de l'or, et savoir ce qui s'était passé. Tout le dire, ce que j'ai pu vous dire, c'est essentiellement des publications des sociétés savantes du détachage, qui ont fait un travail absolument fabuleux. Il y en a une ressource qui est méconnue. On ne sait pas assez qu'en prenant l'état de la Société des sciences, on apprend sur l'évolution des techniques de l'archéologie, puisque c'est eux qui coiffent les gens, on apprend sur l'évolution des techniques de l'archéologie des choses fascinantes. Il m'est arrivé, je vous donnais un copain, paléontologue de l'histoire de l'humanité, que je connais personnellement, et il y avait un point de détail sur les techniques d'archéologie, et je lui ai dit, mais c'est pas du tout nouveau, ça a été utilisé pendant les fouilles par le capitaine Espérant Dieu à Saint-Père. Et je l'ai retrouvé par chance le bulletin de la Société des sciences de Saumur de 1865, que j'ai envoyé à une copine qui m'a dit, mais oui, ce que nous croyons, nous, une méthode stratigraphique, nous croyons tout à fait nouveau, c'était masqué. Et je ne peux que vous encourager à faire des recherches, à les échanger, à faire des colloques, à publier votre excellent bulletin avec régularité, parce que c'est à partir de là qu'on obtiendra des vérités, je dirais, des vérités humaines, c'est-à-dire une histoire qui a de la chair, qui a de la substance, et qui n'est pas faite que de grands mouvements un peu désincarnés. Et alors, c'est mon tout dernier mot, sur la Bourgogne, vous avez bien vu à quel point le tempérament des hommes a compté, la colère de Charles Séverin, avant de venir prendre le siège à Château-Chinon, nous autres portugais, c'est fabuleux, c'est l'irruption de la personne individuelle dans l'histoire.